Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. 5 départements d'Île-de-France en vigilance orange canicule. C'est tout le pays, moins la Bretagne, qui sera traversé cette semaine par un air chaud venu du Sahara, jusqu'à 40 degrés annoncés dans le centre et l'est. Des mesures de précaution ont été prises ou le seront en direction des personnes âgées et des scolaires. Un numéro info canicule est mis en place au 0800 066 666. Les pompiers en grève pendant 2 mois jusqu'à la fin août. Grève symbolique, évidemment, annoncée par les syndicats pour dénoncer le manque de moyens des services de secours. La défaite du candidat d'Erdogan à Istanbul. Le gouvernement avait fait annuler l'élection municipale il y a 3 mois. Le candidat de l'opposition qui l'avait emporté est de nouveau sorti en tête du nouveau scrutin. Dans ce journal également, le changement dans la continuité à la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon reste le seul maître à bord. C'est fini pour Carrefour en Chine. Le numéro 1 européen de la distribution, installé dans l'empire du milieu depuis 25 ans, jette l'éponge. En sport, l'affiche rêvée des amateurs de foot. France-Brésil ce soir au Havre, 8e de finale de la Coupe du Monde féminine. Les Françaises favorites, mais les joueuses de Corinne Diacre ont montré des faiblesses. Au premier tour, elles seront soutenues par les 25 000 spectateurs du stade Océane. Le sport, c'est aussi ce dimanche le nouveau doublé des Mercedes au Grand Prix de France de Formule 1. Hamilton devant Bottas. Le journal des sports dans un instant avec Cédric Langrotte. C'était un film d'Yves Boisset et un roman de Jean Vautrin dans les années 80. Ce fut une tragédie en 2003. La canicule annoncée cette semaine pourrait battre les records de température de cette année 2003, justement. Et c'était à l'époque au mois d'août. On reviendra sur la météo en fin de journal. D'abord un mot sur les précautions qui ont été prises en direction notamment des personnes les plus fragiles, les personnes âgées, qu'elles soient en résidence ou à domicile, ou des agents municipaux pourront les appeler dès demain. Pour les sans-abri, les horaires des accueils de jour pourront être élargis. Beaucoup d'autres mesures encore ont été annoncées que vous nous rappelez, Clémentine Vergniaud.
À commencer par l'ouverture d'une plateforme téléphonique, Canicule Info Service, mise en place par le ministère de la Santé. Elle prendra les appels dès demain matin 9h et fonctionnera jusqu'à 19h du lundi au samedi. L'objectif, donner des conseils pour passer cet épisode de forte chaleur dans les meilleures conditions. À partir de demain, vous entendrez aussi sur notre antenne des messages de prévention. Le ministère de la Santé a demandé au CSA de les faire diffuser aussi à la télé. Tous les ministères et les moyens nécessaires seront mobilisés, assure la ministre Agnès Buzyn. Et ça inclut donc le ministère de l'Éducation nationale qui a envoyé des recommandations aux chefs d'établissement. De l'eau sera distribuée régulièrement aux élèves, des thermomètres installés dans les classes, les sorties et les cours de sport seront adaptés. Enfin, les élèves qui passent le brevet ou le bac pourront sortir de leur salle d'examen pour aller boire de l'eau s'ils n'en ont pas.
Et une attention particulière doit être portée aux bébés, bien sûr. Canicule Info Service au 0800 066 666. 5 départements d'Île-de-France, dont Paris, sont donc placés en vigilance orange canicule. À Paris, où comme dans toutes les métropoles, on cherche la bonne stratégie pour y échapper, simple et basique.
Ben, on va s'habiller le moins possible. On va mettre des shorts, des débardeurs. Et quand on est chez nous, on va se mettre à l'aise, quoi.
On va éviter le maquillage aussi, parce que le maquillage...
Nature.
Avec les moyens du bord.
Je vais essayer de boire de l'eau, de me mettre au frais et d'être dehors en soirée. Plus de fruits, plus de légumes, des glaces. Et puis, ce sera très bien.
Acheter une brume pour mettre sur le corps.
Boire vraiment beaucoup d'eau. Et je vais acheter un ventilateur, un framboisateur, là. On va rester sous l'ombre, on va dire.
Trouver des endroits où c'est climatisé, voilà.
Moi, j'ai dit, je sors pas. Éviter le soleil. Sinon, bah oui, boire de l'eau.
Le plus important, c'est de toujours avoir une bouteille d'eau. Et c'est très important aussi d'avoir des vaporisateurs. Je mange beaucoup moins de la viande. Je préfère des salades, des choses qui sont plus légères, des glaces. Le plus important, c'est de rester hydraté.
Voilà, de jeunes Parisiens parfaitement informés. Témoignage recueilli par Manon Vautier-Cholet. La météo, on y revient avec Jean-Michel Golinski tout à l'heure. C'est dans ce contexte que les pompiers annoncent ce soir un préavis de grève. Préavis symbolique, évidemment, qui veut attirer l'attention du public et du gouvernement sur le manque de moyens du service public des secours. Un cri du cœur et un appel au secours, justement, des 7 syndicats qui représentent plus de 85% des pompiers professionnels et qui disent avoir déposé un préavis de 2 mois du 26 juin jusqu'au 31 août. André Goretti, le président du premier syndicat des pompiers professionnels, au téléphone de Bernard Thomasson.
C'est l'expression d'un ras-le-bol qui maintenant relève de quelques mois. Tout simplement parce qu'on nous demande d'assurer de plus en plus de missions avec de moins en moins de moyens.
Quelles missions vous demande le gouvernement qui ne seraient pas les vôtres ?
Ben, tout simplement, toutes les missions qui devraient être assurées par les services de l'État, les missions régaliennes, ne sont plus assurées. Le SAMU n'est plus en capacité de gérer un certain nombre d'interventions, appels pour malades, des concitoyens qui ne sont pas en bonne santé ou autres, qui souhaitent voir venir un médecin, mais qui ne peut pas se déplacer, puisqu'aujourd'hui on a des désertification médicale, on a des problématiques avec SOS médecins, les médecins de ville qui n'assurent plus de permanence. Donc le SAMU, pour répondre à la demande, s'il n'arrive pas à trouver un médecin ou un ambulancier pour le transport, a plus de facilité à déclencher les pompiers. Lorsque nous sommes engagés dans ces transports de complaisance, s'il y a un feu ou s'il y a une détresse vitale, avec un arrêt cardio-respiratoire ou autre, et que les personnels ne sont plus en caserne, ils ne peuvent plus assurer ce départ, au détriment de carences qui ne sont pas assurées par les services de l'État.
Les pompiers qui manifesteront leurs inquiétudes en portant des brassards et en installant des banderoles sur les casernes. Des pompiers qui n'ont rien pu faire pour sauver l'un des bâtiments emblématiques de Dinan, près de Saint-Malo, la maison Pourcel, maison à colombage du 15e siècle, en plein cœur de ville. La gérante du restaurant, réveillée par le détecteur de fumée, a bien sûr tout de suite appelé les pompiers, mais le feu s'est très rapidement propagé et le bâtiment s'est partiellement effondré. Moment douloureux pour les Dinanais et immense pour le patrimoine, a commenté le maire Didier Lechien, en rappelant qu'il y a 4 ans, tout près de là, la ville avait déjà perdu une partie des remparts de Dinan, donc, qui s'étaient écroulés.
Le journal de 19h sur France Inter.
En Turquie, c'était attendu. 3 mois après l'annulation de l'élection municipale à Istanbul, les Stambouliotes ont de nouveau porté en tête le candidat de l'opposition au pouvoir, Ekrem İmamoğlu, en amplifiant encore sa victoire. C'est ce qu'ont annoncé il y a quelques instants les médias turcs. Eric Biegala, vous êtes à Istanbul où le candidat d'Erdogan a d'ailleurs reconnu sa défaite et félicité son vainqueur.
Oui Yves, je me trouve devant le siège de l'AKP, hein, le parti présidentiel, le siège pour la mairie pour la municipalité d'Istanbul. C'est là où Binali Yildirim, qui était le candidat du parti au pouvoir pour la mairie du Grand Istanbul, vient de reconnaître sa défaite il y a à peu près 25 minutes. Et quelle défaite, avec 99% des bulletins dépouillés, le candidat de l'opposition, Ekrem İmamoğlu, remporte à peu près 54% des suffrages. Binali Yildirim, l'ancien Premier ministre, un fidèle d'Erdogan, un très proche d'Erdogan, ne fait que 45% des suffrages. Alors il y a un écart de 8 à 9 points, ce qui représente, avec un électorat d'environ 10 millions de personnes, 900 000 voix d'avance, c'est absolument énorme, surtout si on compare avec le précédent scrutin qui s'était joué au 31 mars où Ekrem İmamoğlu était certes arrivé en tête, mais avec seulement 13 000 voix d'avance. Là, cette fois, on est dans les 900 000 voix d'avance. Alors, c'est une énorme claque pour le pouvoir. Istanbul, c'est perdre un énorme symbole d'abord. Istanbul, c'était la ville sur laquelle pratiquement Erdogan s'est construit. Il en a été le maire entre 1994 et 2002. Son parti a toujours contrôlé la ville jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir. Et puis Istanbul, c'est surtout pratiquement une ville à l'échelle d'un État, avec un budget de 5 milliards de dollars environ et 10 millions de personnes et 17 millions d'habitants.
Eric Biegala en direct d'Istanbul avec Marc Garvenès. En bref, un Chinois à la tête de la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, Chu Dongyu, biologiste, vice-ministre de l'Agriculture dans son pays. Il a été élu dès le premier tour contre la candidate européenne et française Catherine Gélin-Lanéel. Par ici, la sortie pour Carrefour en Chine, justement, c'est la fin d'une déjà longue histoire. Près de 25 ans que le numéro 1 de la distribution en Europe s'était installé dans le pays le plus peuplé du monde, faisant envie à beaucoup de ses concurrents. Et pourtant, les ventes du groupe français ne faisant que reculer, Carrefour annonce ce dimanche qu'il cède sa filiale chinoise déficitaire à un groupe chinois, Philippe Lefebvre.
C'est la fin du rêve chinois pour Carrefour, qui s'était installé dans l'Empire du Milieu en 1995. À l'époque, la Chine, avec ses 1,4 milliard d'habitants, faisait fantasmer toutes les enseignes françaises de la grande distribution. Mais aujourd'hui, pour le groupe français, c'est un constat d'échec. Ainsi, entre 2010 et 2016, le chiffre d'affaires des 234 magasins Carrefour chinois a baissé de 30%. À cela, une raison majeure, au moment où tous ses concurrents, et notamment ses concurrents chinois, se mettaient en ordre de bataille pour développer le commerce en ligne dans le pays où le commerce digital est le plus développé au monde, eh bien Carrefour n'a pas vu venir la tendance et ce manque de vision a accéléré sa chute. Résultat, Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, n'avait plus qu'une solution, vendre. Et c'est finalement Suning, le numéro 1 chinois de l'électroménager, fort de 8881 magasins, qui a racheté l'enseigne, ce qui devrait rapporter au final à Carrefour 620 millions d'euros, somme qui devrait permettre d'accélérer le plan de restructuration et de modernisation de l'enseigne en France. Enfin, Carrefour ne va pas totalement disparaître du jour au lendemain en Chine. Chine. Ainsi, Suning s'est engagé à conserver l'enseigne au moins pendant encore 4 ans.
Levez le voile sur la filiation dans le cadre du débat sur la PMA et du projet de loi de bioéthique. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le dit au JDD. Aujourd'hui, de nombreux enfants ne savent pas qu'ils sont nés par un donneur. Je suis donc favorable à l'idée de lever le voile sur l'origine de la filiation pour tous. Ce qui concernera donc aussi les couples hétérosexuels qui ont eu recours à un don. L'anonymat du don sera préservé, ajoute la ministre, mais l'enfant pourra avoir accès à son histoire et à l'identité du donneur quand il aura 18 ans. Le projet de loi qui prévoit aussi notamment l'ouverture de la PMA à toutes les femmes doit être débattu fin septembre au Parlement. En politique, tout change parce que rien ne change à la France insoumise. Après la débâcle des européennes et les 6,3% de la liste conduite par Manon Aubry, le mouvement, qui n'est pas un parti, le dit et le répète, a tenu au bois de Vincennes ce week-end son assemblée représentative, objectif les municipales l'année prochaine. Mais pour qui, pourquoi? Ceux qui attendaient un changement de méthode, voire de en seront restés pour leurs frais. C'est moi qui ai fondé la boutique, a rappelé Jean-Luc Mélenchon, dont le rôle, dit-il, est consubstantiel au mouvement. Ce mouvement de la France insoumise dont le député Adrien Quatennens a été nommé coordinateur, mais dont Jean-Luc Mélenchon reste bien le seul maître à bord, sans trop forcer sur le mea culpa, Laurence Perron.
Le Big Bang, ça c'est l'affaire de la vieille gauche. Jean-Luc Mélenchon, très en verve, a signé la fin du psychodrame post-échec des élections européennes.
Oui, ça a été une grande difficulté. Et entre les Européens qui trouvent qu'aucun prix n'est trop cher du moment que c'est l'Europe, les euros butés, qui capitulent d'avance, eh bien la position que nous avons portée, celle du plan A et du plan B, celle de la souveraineté populaire, eh bien on n'a pas su le faire comme il fallait le faire et on n'a pas réussi à fédérer. Voilà.
La ligne ne change pas, pourquoi chercher un nouveau cartel des gauches avec des gens qui n'en veulent pas, des vraies solutions à gauche? Ça c'est ce que dit en substance Mélenchon, qui tape au passage l'écologiste Yannick Jadot et son cavalier seul, mais aussi à mot couvert la députée insoumise Clémentine Autain, qui a d'ailleurs déserté ce week-end de réflexion.
Si nous avons eu une déconvenue en France, le nombrilisme de certains fait qu'ils ne s'occupent pas de savoir ce qui se passe ailleurs.
Certes, Jean-Luc Mélenchon prend du champ par rapport au mouvement. Il en confie les clés au député du Nord, Adrien Quatennens. Mais il le rappelle, la présidentielle et les 7 millions d'électeurs, c'est lui.
Je suis stupéfait de voir que c'est à moi qu'on me demande de s'en aller.
Il continuera d'essayer de convaincre les fâchés fachos.
Parce que tous les ballots qui se sont figurés que pour mettre un bon coup de pied au cul de Macron, il fallait mettre les grosses bottes du Front National, sont en train de découvrir que le fait de leur confier cette tâche ne sert strictement à rien.
Et de terminer, à l'adresse de ceux qui le voyaient partant, en citant Camus et son Sisyphe heureux, la lutte pour les sommets suffit à remplir le cœur d'un être humain.
Laurence Perron, et à propos de Jean-Luc Mélenchon, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, répond qu'à choisir entre lui et Marine Le Pen, elle voterait pour le président des Insoumis, pour le patron des Insoumis, pour Sibeth Ndiaye, invité de Radio J. On ne peut pas confondre les deux qui ne s'inscrivent pas dans la même histoire. Et donc, dans le cas très improbable où Jean-Luc Mélenchon serait opposé à Marine Le Pen, elle voterait pour lui en ajoutant « J'espère que ce serait réciproque ». Allez, au théâtre, ce soir, rien à voir avec ce qui précède, La vie de Galilée, une pièce de Brecht moins connue que les autres et qui revient pour la deuxième fois seulement à la Comédie Française. 30 ans après son entrée au répertoire, c'est le patron du français Éric Ruff qui signe cette nouvelle version avec Hervé Pierre dans le rôle titre. Dans cette pièce écrite en 1938, Bertolt Brecht faisait à travers la vie de l'astronome italien le procès de l'obscurantisme, un sujet toujours aussi moderne, Stéphane Capron.
Brecht a écrit un biopic théâtral. Dans certaines versions, le côté politique de l'œuvre prend le dessus sur l'évocation historique. Ici, Éric Ruff a choisi de dresser le portrait d'un génie obstiné résistant à l'obscurantisme religieux. Galilée, avec sa lunette astronomique, permet à l'Italie du XVIIe de lever les yeux au ciel et de comprendre que la Terre tourne autour du Soleil. Hervé Pierre incarne avec gourmandise ce Galilée.
On s'allonge l'été dans un champ et on regarde les étoiles. Mais on sait ce que c'est. Mais il faut arriver à imaginer à ce moment-là, quand on découvre que le ciel n'est pas ce qu'on imaginait qu'il est. Donc c'est vivre en fait sur le plateau l'éblouissement de la découverte et puis ensuite la difficulté en fait de faire en sorte que les gens viennent simplement regarder dans la lunette, simplement découvrir cette beauté, cette magnificence et puis d'être après en but au dogme de l'Église et finalement de se retrouver à vivre un procès de l'Inquisition et de finir sa vie en résidence surveillée, en fait.
La mise en scène d'Éric Ruff rend hommage au grand maître de la peinture italienne avec des reproductions en très gros plan de tableaux du Caravage et de Raphaël. Le tout est rehaussé par des costumes flamboyants signés Christian Lacroix.
La vie de Galilée à la Comédie Française à Paris, c'est jusqu'au 21 juillet. La route.
Point route avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale. Conditions sur labanquepostale.fr.
Laura Lavenne a un trafic chargé sur la 13.
Oui, sur la 13 pour rejoindre Paris, il y a 5 km de bouchons avant de passer le péage de Mantes-la-Ville. Et après, ça ne s'arrange pas puisque le trafic est ralenti sur 17 km du péage jusqu'à Aiguevilly en Ile-de-France. Même situation sur les grands axes vers Paris, sur l'autoroute A1 et sur l'autoroute A3. Ça bouchonne de Roissy jusqu'au périphérique parisien. Trafic compliqué également pour rejoindre Lyon. Très compliqué même, hein, puisque l'autoroute A7 est coupée à partir de Chana entre Valence et Lyon en raison d'un grave accident. C'est ce qui explique ce gros bouchon à partir de Tournon-sur-Rhône. Il est préférable d'éviter le secteur.
Laura Lavenne, OPC Mobilité de Radio France. Le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Golinski.
On en parle déjà très largement depuis quelques jours. La hausse des températures au cours de la semaine va nous donner une période caniculaire exceptionnelle par sa précocité. En milieu de semaine, la plupart des valeurs vont se situer entre 34 et 38 degrés avec des pointes à 40 dans le sud et dans l'est. De plus, les nuits vont rester chaudes entre 20 et 25 degrés. 5 départements sont d'ores et déjà placés en vigilance orange canicule, Paris, la Petite Couronne et la Seine-et-Marne. Remarque importante, si vous habitez près de la Manche et de l'océan, vous allez conserver des températures plus raisonnables. Demain, persistance d'un ciel bleu sur les régions de l'Est, d'un temps plus voilé mais sans autres conséquences entre le nord de la Seine, le centre et le Midi-Pyrénées. En revanche, sur la Basse-Normandie et le long de l'océan, l'ambiance sera plus grise avec possibilité d'averses et temporairement d'orages sur le quart nord-ouest.
19h17, on passe au sport. Le journal des sports, c'est avec vous, Cédric Langrotte, bonsoir.
Bonsoir Yves, bonsoir à tous.
Dans moins de deux heures, le coup d'envoi au Havre de ce match très attendu.
Oui, on en parle depuis lundi, hein, ce huitième de finale du mondial féminin entre la France et le Brésil. Coup d'envoi à 21h et toute l'équipe de France Inter, vous l'entendez, qui est déjà sur place. Bonsoir Nadia Ben Mokhtar.
Bonsoir.
La consultante foot de Radio France, bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Une semaine d'attente, je le disais, mais un adversaire finalement connu assez tard, hein, jeudi soir seulement. Dans quelle disposition sont nos Bleus avant cette rencontre, Guillaume ?
Alors, elles ont forcément un petit peu de pression sur les épaules parce qu'au fil des matchs de cette phase de groupe, ça a été de plus en plus difficile. 4-0, 2-1, 1-0, ça s'est vérifié dans le score et puis sur le terrain, dans la performance également. Donc ça, elles l'ont en tête, c'est sûr. Et puis ce soir, c'est un match, un premier match à élimination directe. Il n'y a pas de place au faux pas, pas de place au match nul. Ça se terminera au tir au but, comme ça l'a déjà fait hier notamment. Donc les Bleus ont cette pression-là, mais on les voit, elles sont entrées sur la pelouse du Stade Océane il y a quelques minutes. Nadia, et elle rigole, on voit Sarah Boisdi, on voit Grace Gueyoro, elles sont bien habillées en pantalon, veste foncée et chemise blanche, basket blanche également, et on est un peu loin d'elle, mais on sent qu'elles discutent par petits groupes, que c'est plutôt un groupe qui vit bien, ça se voit à chaque fois qu'on peut les observer.
Alors on a beaucoup entendu Corinne Diacre, vous en parliez, essayer de faire tomber la pression, comme par exemple ces quelques mots prononcés en conférence de presse.
On a un match couperet. Il nous attend maintenant que des matchs de ce genre-là. C'est ce qui fait aussi le charme d'une Coupe du Monde, on ne va pas s'en plaindre. L'idée surtout, c'est de jouer ce match-là et de ne pas avoir de regrets à l'issue du match.
Un match comme un autre, vraiment, Nadia Ben Mokhtar ?
Non, comme un autre, je ne pense pas. Je pense que cette déclaration, elle a vraiment pour vocation de dédramatiser, on va dire, et de faire tomber la pression. Mais déjà, comme vous l'avez très bien dit, un huitième de finale, c'est le premier match à élimination directe, donc défaite interdite. Déjà ça donne un contexte particulier. Et puis c'est vrai que cette équipe brésilienne, c'est une équipe de grande qualité. Et ça va obliger les Bleus vraiment à passer un cap cette fois-ci, à élever leur niveau de jeu. Et surtout à jouer leur jeu, à se libérer, à mettre de la folie, à mettre de la créativité. Donc voilà, c'est vraiment un match qui va permettre à l'équipe de France de pleinement rentrer dans cette Coupe du Monde.
Et puisque vous parlez du Brésil, parlons-en quelques instants. Surmotivées, les Brésiliennes, un gros choc, hein, ce France-Brésil de l'autre côté de l'Atlantique. C'est en tout cas ce que nous disait Raphaël De Angeli, journaliste aux médias brésiliens Globo.
Toutes les Brésiliennes regardent le match. Au Brésil, il y a 20-25 millions de personnes qui regardent le match, tous les matchs. Et pour ça, je pense que ce n'est pas un match normal. Au contraire, c'est un match historique pour Brésil.
Un match historique, est-ce que ça peut décupler les forces des coéquipières de Marta ou de Formiga, Nadia?
Oui, bah de toute façon, le Brésil est un peuple qui aime tellement le football qu'elle soutient son équipe nationale, qu'elle soit féminine ou masculine. Je pense que cette équipe brésilienne avait pour objectif d'aller en huitième. Donc l'objectif, finalement, il est rempli. Maintenant, c'est que du bonus pour ces joueuses-là. Mais connaissant un peu les tempéraments de ces joueuses, c'est des compétitrices. Et si elles ont l'opportunité d'aller au bout, évidemment qu'elles vont y mettre beaucoup de cœur.
Guillaume, comment la France doit aborder cette rencontre, et notamment pour contrer cette joueuse que je viens d'évoquer et dont tout le monde parle, la record woman du nombre de buts en Coupe du Monde, hommes et femmes confondus, Marta?
107 buts dans sa carrière en sélection, 146 matchs avec la Seleção. Il n'y a pas qu'elle, il y a Christiane, 93 buts aussi, ça fait quasiment 200 buts, ouais, 200 buts tout rond à L2, donc c'est pas que Marta. Marta, je suis pas sûr qu'il y ait un plan de Corinne Diacre contre la reine Marta, parce que c'est aussi comme ça qu'on la surnomme là-bas, c'est Pelé qui lui a donné ce nom-là. C'est une joueuse très performante, une buteuse dans l'âme. Je pense que la défense, et notamment la défense centrale de Corinne Diacre avec deux cadres, Wendy Renard et Grinchbock, ont toute la confiance de la sélectionneuse et ont toute la capacité d'arrêter les offensives brésiliennes, et en particulier les capacités offensive de Marta.
Battre le Brésil en huitième de finale, ce serait le strict minimum, Nadia, pour la France?
Oui, bah, ça serait quand même déjà une belle performance, hein, parce qu'on parle d'une belle équipe, mais effectivement, une élimination à ce stade-là de la compétition serait une énorme déception pour toute la fédération, mais aussi pour tous les Français. Donc je pense que voilà, les joueuses ont vraiment à cœur de se qualifier ce soir. Et ça serait, je pense, moi, plutôt un bon déclic et un bon tremplin pour la suite de cette compétition, de se confronter tout de suite à une équipe de haut niveau pour après voilà, être tout de suite dans un mode où on met beaucoup d'exigences et où on va le plus loin possible.
On a fait beaucoup le parallèle, notamment avec le France-Argentine de l'an dernier chez les hommes, cette Coupe du Monde masculine, et ce France-Argentine également en huitième de finale qui avait été un peu un déclencheur de quelque chose. C'est ça que vous nous dites en fait, Nadia?
Oui, exactement, parce que c'était pareil chez les garçons. Ils avaient fait une phase de poule assez mitigée, on va dire, en termes de qualité de jeu et de performance. Et jouer tout de suite une grande nation, et ben, inconsciemment, les joueurs comme les joueuses se mettent vraiment à un niveau d'exigence supplémentaire. Et je pense que c'est du coup une bonne chose de jouer le Brésil ce soir et pas le Cameroun ou la Nouvelle-Zélande, parce que ça oblige les joueuses à passer un cap et à monter en puissance en se libérant complètement.
Nadia Benmokhtar, la consultante foot de Radio France, et Guillaume Batin, les envoyés spéciaux de France Inter au stade Océane du Havre. Merci à vous. On rappelle donc le coup d'envoi de ce huitième de finale face au Brésil. C'est tout à l'heure à 21h. Et en ce moment, on joue les toutes dernières minutes de l'autre huitième de finale du jour entre l'Angleterre et le Cameroun. C'est pas tout à fait fini, mais bon, le suspense n'est plus vraiment là puisque l'Angleterre mène 3-0 face au Cameroun. À noter que l'arbitrage vidéo s'est une nouvelle fois illustré dans cette demi-finale, dans ce huitième de finale plutôt.
C'est très bien.
Ce qui a pas mal énervé les Camerounais.
Allez, on passe au Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix de France, qui n'a rien changé à la situation. Il y a toujours un homme qui règne en maître cette saison.
Lewis Hamilton, le Britannique, qui a remporté cet après-midi la course sur le circuit du Castellet dans le Var. Comme depuis le début des essais libres jeudi, les Mercedes sont au-dessus, tout simplement, Jean-Pierre Blimeau.
Les années passent et se ressemblent au Castellet pour Mercedes. Auteur de la pole et vainqueur du Grand Prix en 2018, Lewis Hamilton a récidivé cette année sans aucune difficulté. Parti en première ligne devant son coéquipier Valtteri Bottas, le Britannique et le Finlandais avaient la possibilité de livrer bataille pour la victoire. Ce duel n'a jamais eu lieu. Bottas a surtout été menacé par Charles Leclerc, le jeune monégasque, qui a tenté sur sa Ferrari de s'emparer de la deuxième place dans les derniers tours. Quatrième, le Néerlandais aux dents longues, Max Verstappen. Il finit devant Sébastien Vettel. L'Allemand, finalement cinquième, alors qu'il avait été handicapé par une septième place sur la grille de départ. Mais Vettel a soufflé in extremis le meilleur chrono du tour de piste et le point de bonus qui va avec à Lewis Hamilton. Côté tricolore, ce Grand Prix de France ne restera pas dans les mémoires. Pierre Gasly, parti avec des pneus trop tendres, a dû s'arrêter dès le 18e tour et finit 11e, sans marquer de points. Romain Grosjean, seul Français à finir dans le Var l'an dernier, abandonne en fin de course. Et c'est Renault qui porte de nouveau le plus haut les couleurs de la France, avec l'Australien Ricciardo 7e et l'Allemand Hülkenberg 9e. Au Castellet, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Et précisons que la décision de Romain Grosjean d'abandonner la course relève de la stratégie d'équipe et pas d'un problème technique sur sa monospace. La mise au point de l'écurie A ce soir, mais au-delà des Mercedes, celui qui se réjouit à l'heure où je vous parle, c'est bien Charles Leclerc, offensif jusqu'au bout sur sa Ferrari. Le Monégasque finit donc troisième, Jean-Pierre vient de nous le dire, avec Valtteri Bottas dans sa ligne de mire.
C'est pas passé loin, j'avais pas mal géré les pneus avant ça, et vers la fin je me sentais bien, la voiture était plutôt bonne, j'ai vu que Valtteri galérait un petit peu vers la fin, donc j'ai poussé encore plus, et bon, ça l'a pas fait pour peu. Je pense qu'il a surtout eu quelques problèmes à remettre ses pneus dans la bonne fenêtre, et donc voilà, j'ai essayé d'en profiter, mais c'était pas suffisant.
Dans le dernier virage, c'était pour de vrai cette petite attaque là ou...
Non, je me suis dit, sous un malentendu, ça peut marcher, mais non, ça n'a pas marché.
Charles Leclerc, l'actuel cinquième du classement des pilotes au micro de nos confrères de Canal+. Il est juste devant le premier français, hein, Pierre Gasly, le Normand.
Et pendant ce temps, on vient d'entendre les monospaces, pendant ce temps, place de la Concorde à Paris, ce sont les Alpha Jets de la patrouille de France qui ont fait résonner leurs réacteurs.
Oui, la clôture de cette grande journée olympique, l'emblématique place parisienne transformée en immense terrain de sport avec pas moins de 30 fédérations invitées, des démonstrations, des athlètes de haut niveau. On a croisé notamment Renaud Lavillenie ou encore Yannick Agnel. Thomas Larabie, vous êtes sur place pour France Inter. Le but, c'était de renforcer l'engouement populaire en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mission accomplie, Thomas ?
Oui Cédric, on n'a pas encore le chiffre de fréquentation, mais visuellement c'était assez impressionnant. Mention spéciale à l'escalade hein, qui gagne le prix de la plus longue file d'attente. Certains ont fait jusqu'à une heure de queue pour pouvoir grimper le mur de 8 mètres installé ici, place de la Concorde, juste en face de l'obélisque. Alors globalement ce sont les disciplines nouvelles hein, qui ont eu le plus de succès auprès des enfants, avec, on le disait, l'escalade, mais aussi le skateboard ou encore le breakdance. Pas de surf malheureusement hein, il a été difficile d'amener les vagues ici au pied de l'obélisque. Et puis il n'y a pas que les enfants, les champions, vous le disiez aussi, on fait des découvertes. J'ai assisté à un combat de sabre laser, notamment entre Renaud Lavillenie et Yannick Agnel. Ils se sont aussi affrontés dans un concours de pénalty cécifoot avec un bandeau sur les yeux. Alors ils n'ont pas cadré beaucoup de frappes. Cédric, on souhaite plus de précision à l'équipe de France ce soir. Et puis pour finir, il y a une demi-heure, il y a eu le clou du spectacle, la patrouille de France. Deux passages sous les hurrahs du public, la patrouille laissant derrière elle les fameuses traînées bleu, blanc, rouge. Bref, c'était les petits plats dans les grands ici, et ça sent effectivement l'opération réussie.
Thomas Larabie, depuis la place de la Concorde à Paris, on entend derrière vous que ça joue encore pas mal au tennis de table.
Il fait pas encore trop chaud.
Exactement.
Pour faire du sport.
Et justement, c'est un sport qui va faire son apparition aux Jeux Olympiques dès l'an prochain à Tokyo. Le basket à 3 contre 3. La Coupe du Monde a lieu en ce moment aux Pays-Bas. La finale va opposer dans quelques minutes maintenant les États-Unis à la Lettonie. Basket à 3 contre 3. Un sport en plein essor, Florent Vautier.
À 15 ans, Aubin joue au basket en 5 contre 5 avant de découvrir le 3 contre 3.
Je me suis intéressé à cette discipline parce que j'ai trouvé que ça se rapprochait beaucoup du basket de rue et qu'il y avait beaucoup plus d'intensité que dans le 5-5. Ça me permettait d'exploiter plus le jeu que j'avais l'habitude de jouer, donc c'est pour ça que je me suis de plus en plus intéressé à ce sport.
Des matchs en 21 points, sur une moitié de terrain, où les joueurs peuvent s'auto-arbitrer, le basket 3-3, c'est un état d'esprit particulier.
Tout simplement la liberté.
Rodrigue Jules Gaston, directeur technique du Levallois Sporting Club.
Ça va plus vite, il faut prendre les décisions plus vite. On est 4-3 sous le terrain, donc on touche un peu plus le ballon. On a un peu plus le droit de faire ce qu'on veut. 5-5, il y a beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de règles. Beaucoup de joueurs se détournent du 5-5 pour aller vers le 3-3 parce que justement il y a cette idée de liberté et de plaisir du jeu qui retrouve un petit peu plus.
Le club de Levallois va d'ailleurs ouvrir une section 3-3 à la rentrée de septembre. Cette pratique séduit de plus en plus de monde. Au Stade français à Paris, la section existe depuis déjà un an. Son responsable, Rodrigue Biquenet.
Ça peut être un bon complément du 5-5. Je joue le week-end, j'ai mon 5-5. Cependant, je ne joue pas le week-end, j'ai la possibilité de faire le 3-3. Je l'ai mis en place dans les périodes où il n'y avait pas beaucoup de matchs pour que justement ces personnes puissent avoir l'opportunité de pratiquer un peu plus. Je suis persuadé que le 3-3 est l'avenir, voire même beaucoup plus, du basket.
La France accueillera en 2021 les championnats d'Europe sur le parvis de la Défense, 3 ans avant les Jeux de 2024 où le basket 3-3 sera à nouveau au programme olympique.
Le reportage de Florent Vautier, le carton plein pour les judokas tricolores aux Jeux européens de Minsk. 2 médailles d'or aujourd'hui, Clarisse Agbenienou en moins de 63 kilos et Margot Pinault en moins de 70 kilos. Ces Jeux européens font office de championnat d'Europe dans cette discipline et il reste quelques secondes à peine à jouer dans ce 8e de finale de la Coupe du Monde féminine entre l'Angleterre et le Cameroun. L'Angleterre qui mène toujours 3-0 et qui semble se diriger tout droit vers un quart de finale.
C'est comme si c'était fait. C'était le journal de Cédric Langrotte, le journal des sports bien sûr. Merci à vous. Dans quelques instants, Noël Bréham, les petits bateaux, et on n'oublie pas à 8h05, la Tulu, mon petit loup, Denis Chessou, bonne soirée.